Chapitre 6. La haute et la basse. Tout à coup, il y eut dans la chambre une vive clarté. Quatre doorkeepers apportèrent et placèrent des deux côtés du trône quatre hautes torchères candélabres chargées de bougies. Le trône, ainsi éclairé, apparut dans une sorte de pourpre lumineuse. Vide, mais auguste. La reine dedans n'y eut pas ajouté grand-chose. L'huissier de la Verge Noire entra, la baguette levée, et dit « Leur seigneurie, les commissaires de sa majesté !» Toutes les rumeurs tombèrent. Un clerc en perruque et en simarre parut à la grande porte, tenant un coussin fleur-de-lysé sur lequel on voyait des parchemins. Ces parchemins étaient des billes. À chacun pendait à une tresse de soie la bille ou bulle, d'or quelquefois, qui fait qu'on appelle les lois « bills » en Angleterre et « bulles » à Rome. À la suite du clerc marchaient trois hommes en robe de père, le chapeau à plumes sur la tête. Ces hommes étaient les commissaires royaux. Le premier était le lord haut trésorier d'Angleterre, Godolphin. Le second était le lord président du conseil, Pembroke. Le troisième était le lord du sceau privé, Newcastle. Ils marchaient l'un derrière l'autre, selon la préséance, non de leur titre, mais de leur charge. Godolphin en tête, Newcastle le dernier, quoique duc. Ils vinrent au banc devant le trône, firent la révérence à la chaise royale, ôtèrent et remirent leurs chapeaux et s'assirent sur le banc. Le lord chancelier regarda l'huissier de la Verge Noire et dit « Mandez à la barre les communes !» L'huissier de la Verge Noire sortit. Le clerc, qui était un clerc de la chambre des lords, posa sur la table, dans le carré des sacs de laine, le coussin où étaient les billes. Il y eut une interruption qui dura quelques minutes. Deux doorkeepers posèrent devant la barre un escabeau de 3 degrés. Cet escabeau était de velours incarnat, sur lequel des clous dorés dessinaient des fleurs de lys. La grande porte qui s'était refermée se rouvrit et une voix cria « Les fidèles communes d'Angleterre !» C'était l'huissier de la Verge Noire qui annonçait l'autre moitié du Parlement. Les lords mirent leurs chapeaux. Les membres des communes entrèrent, précédés du speaker, tous tête nue. Ils s'arrêtèrent à la barre. Ils étaient en habit de ville, la plupart en noir, avec l'épée. Le speaker, très honorable John Smith, écuyer, membre pour le bourg d'Andover, monta sur l'escabeau qui était au milieu de la barre. L'orateur des communes avait une longue simarre de satin noir, à larges manches et à fente galonnée de brandebourgs d'or par derrière et par devant, et moins de perruque que le lord chancelier. Il était majestueux, mais inférieur. Tous ceux des communes, orateurs et membres, demeurèrent en attente. Debout et nu-tête, devant les pairs assis et couverts. On remarquait dans les communes le chef justicier de Chester, Joseph Jekyll, plus 3 sergents en loi de sa majesté, Hooper, Powys et Parker, et James Montagu, solliciteur général, et la tournée générale, Simon Harcourt. À part quelques baronnets et chevaliers, et 9 lords de courtoisie, Hartington, Windsor, Woodstock, Mordaunt, Granby, Scudamore, Fitzharding, Hyde et Berkeley, fils de père et héritier de Perry, tout le reste était du peuple, sorte de sombre foule silencieuse. Quand le bruit de pas de toute cette entrée eut cessé, le crieur de la verge noire à la porte dit « Oyez !» Le clerc de la couronne se leva. Il prit, déploya et lut le premier des parchemins posés sur le coussin. C'était un message de la reine, nommant, pour la représenter en son parlement, avec pouvoir de sanctionner les bills, trois commissaires. Savoir. Ici, le clerc haussa la voix. Sydney, comte de Godolphin. Le clerc salua Lord Godolphin. Lord Godolphin souleva son chapeau. Le clerc continua. Thomas Herbert, comte de Pembroke et de Montgomery. Le clerc salua Lord Pembroke. Lord Pembroke toucha son chapeau. Le clerc reprit. John Hollis, duc de Newcastle. Le clerc salua Newcastle. Lord Newcastle fit un signe de tête. Le clerc de la couronne se rassit. Le clerc du Parlement se leva. Son sous-clerc, qui était à genoux, se leva en arrière de lui. Tous deux faisant face au trône et tournant le dos aux communes. Il y avait sur le coussin cinq bills. Ces cinq bills, votés par les communes et consentis par les lords, attendaient la sanction royale. Le clerc du Parlement lut le premier bill. C'était un acte des communes qui mettait à la charge de l'État les embellissements faits par la reine à sa résidence de Hampton Court, se montrant à 1 000 000 sterling. Lecture faite, le clerc salua profondément le trône. Le sous-clerc répéta le salut plus profondément encore, puis, tournant à demi la tête vers les communes, dit « La reine accepte vos bénévolences et ainsi le veut. » Le clerc lut le deuxième bill. C'était une loi condamnant à la prison et à l'amende quiconque se soustrairait au service des trimbans. Les trimbans, troupes qu'on traîne où l'on veut, sont cette milice bourgeoise qui sert gratis et qui, sous Élisabeth, à l'approche de l'armada, avait donné 185 000 fantassins et 40 000 cavaliers. Les deux clercs firent à la chaise royale une nouvelle révérence, après quoi le sous-clerc de profil dit à la chambre des communes « La reine le veut ». Le troisième bill accroissait les dîmes et prébendes de l'évêché de Lichfield et de Coventry, qui est une des plus riches prélatures d'Angleterre. Faisait une rente à la cathédrale, augmentait le nombre des chanoines et grossissait le doyenné et les bénéfices afin de pourvoir, disait le préambule, aux nécessités de notre sainte religion. Le quatrième bill ajoutait au budget de nouveaux impôts, un sur le papier marbré, un sur les carrosses de louage fixés au nombre de 800 dans Londres et taxés 52 livres par an chacun, un sur les avocats, procureurs et solliciteurs, de 48 livres par tête par an, un sur les pots tannés, nonobstant, disait le préambule, les doléances des artisans en cuir, un sur le savon, nonobstant les réclamations de la ville d'Exeter et du Devonshire où l'on fabrique quantité de serge et de draps. Un sur le vin, de 4 shillings par barrique, un sur la farine, un sur l'orge et le houblon, et renouvellement pour 4 ans. Les besoins de l'État, disait le préambule, devant passer avant les remontrances du commerce. L'impôt du tonnage, variant de 6 livres, tournois par tonneau pour les vaisseaux venant d'Occident, à 1 800 livres pour ceux venant d'Orient. Enfin, le bill, déclarant insuffisante la capitation ordinaire déjà levée pour l'année courante, s'achevait par une surtaxe générale sur tout le royaume de 4 shillings ou 48 sous tournois par tête de sujet, avec mention que ceux qui refuseraient de prêter les nouveaux serments au gouvernement paieraient le double de la taxe. Le cinquième bill faisait défense d'admettre à l'hôpital aucun malade s'il ne déposait, en entrant, 1 livre sterling pour payer, en cas de mort, son enterrement. Les trois derniers bills, comme les deux premiers, furent l'un après l'autre sanctionnés et faits loi par une salutation au trône et par les quatre mots du sous-clerc « La reine le veut », dit par-dessus l'épaule aux communes. Puis le sous-clerc se remit à genoux devant le quatrième sac de laine et le lord chancelier dit « Soit fait comme il est désiré ». Ceci terminait la séance royale. Le speaker, courbé en deux devant le chancelier, descendit à reculons de l'escabeau, en rangeant sa robe derrière lui. Ceux des communes s'inclinèrent jusqu'à terre, et pendant que la chambre haute reprenait, sans faire attention à toutes ses révérences, son ordre du jour interrompu, la chambre basse s'en alla. Chapitre 7. Les tempêtes d'hommes pires que les tempêtes d'océan. Les portes se refermèrent. L'huissier de la Verge Noire rentra. Les lords commissaires quittèrent le banc d'État et vinrent s'asseoir en tête du banc des ducs, aux places de leur charge, et le lord chancelier prit la parole. « Milord, la délibération de la Chambre étant depuis plusieurs jours sur le bill qui propose d'augmenter de 100 000 livres sterling la provision annuelle de Son Altesse Royale, le prince mari de Sa Majesté, le débat ayant été épuisé et clos, il va être procédé au vote. Le vote sera pris, selon l'usage, à partir du puiné du banc des barons. Chaque lord, à l'appel de son nom, se lèvera et répondra « content » ou « non content » et sera libre d'exposer ses motifs de vote, s'il le juge à propos. Clerc, appelez le vote. Le clerc du Parlement, debout, ouvrit un large in-folio exhaussé sur un pupitre doré qui était le livre de la pairie. Le puiné de la Chambre à cette époque était Lord John Hervey, créé baron et pair en 1703, duquel sont issus les marquis de Bristol. Le clerc appela. « Milord John, baron Hervey. » Un vieillard en perruque blonde se leva et dit « content ». Puis se rassit. Le sous-clerc enregistra le vote. Le clerc continua. « Milord Francis Seymour, baron Conway de Kittulkat. » « Content !» murmura en se soulevant à demi un élégant jeune homme à figure de page qui ne se doutait point qu'il était le grand-père des marquis d'Hertford. « Milord John Levenson, baron Gower, » reprit le clerc. Ce baron, d'où devaient sortir les ducs de Sutherland, se leva et dit en se rasseyant « content ». Le clerc poursuivit. « Milord Heneage Finch, baron Guernesey. » L'aïeul des comtes des Leysford, non moins jeune et non moins élégant que l'ancêtre des marquis d'Hertford, justifia sa devise « Aperto vivere voto » par la hauteur de son consentement. « Content !» cria-t-il. Pendant qu'il se rasseyait, le clerc appelait le cinquième baron. « Milord John, baron Granville. » « Content !» répondit tout de suite levé et rassis, Lord Granville de Pottridge, dont la pairie sans avenir devait s'éteindre en 1709. Le clerc passa au sixième. « Milord Charles Montaigu, baron Halifax. »« Content !» dit Lord Halifax, porteur d'un titre sous lequel s'était éteint le nom de Saville et devait s'éteindre le nom de Montaigu. Montaigu est distinct de Montagu et de Montacut. Et Lord Halifax ajouta « Le prince George a une dotation comme mari de Sa Majesté. Il en a une autre comme prince de Danemark, une autre comme duc de Cumberland et une autre comme lord haut-amiral d'Angleterre et d'Irlande. Mais il n'en a point comme généralissime. C'est une injustice. Il faut faire cesser ce désordre, dans l'intérêt du peuple anglais. » Puis Lord Halifax fit l'éloge de la religion chrétienne, blâma le papisme et vota le subside. Lord Halifax rassit, le clerc repartit. Milord Christophe, baron Barnard. Lord Barnard, de qui devaient naître les ducs de Cleveland, se leva à l'appel de son nom. Content. Et il mit quelque lenteur à se rasseoir, ayant un rabat de dentelle qui valait la peine d'être marqué. C'était du reste un digne gentilhomme et un vaillant officier que Lord Barnard. Tandis que Lord Barnard se rasseyait, le clerc, qui lisait de routine, eut quelque hésitation. Il raffermit ses lunettes et se pencha sur le registre avec un redoublement d'attention. Puis, redressant la tête, il dit « Milord Fermain Cloncharlie, baron Cloncharlie et Hunkerville. » Gwynplaine se leva. « Non content, » dit-il. Toutes les têtes se tournèrent. Gwynplaine était debout. Les gerbes de chandelles placées des deux côtés du trône éclairaient vivement sa face et la faisaient saillir dans la vaste salle obscure avec le relief qu'aurait un masque sur un fond de fumée. Gwynplaine avait fait sur lui cet effort qui, on s'en souvient, lui était à la rigueur possible. Par une concentration de volonté égale à celle qu'il faudrait pour dompter un tigre, il avait réussi à ramener pour un moment au sérieux le fatal rictus de son visage. Pour l'instant, il ne riait pas. Cela ne pouvait durer longtemps. Les désobéissances à ce qui est notre loi ou notre fatalité sont courtes. Parfois l'eau de la mer résiste à la gravitation, s'enfle en trombe et fait une montagne, mais à la condition de retomber. Cette lutte était celle de Gwynplaine. Pour une minute qu'il sentait solennelle, par une prodigieuse intensité de volonté, mais pour pas beaucoup plus de temps qu'un éclair, il avait jeté sur son front le sombre voile de son âme. Il tenait en suspens son incurable rire. De cette face qu'on lui avait sculptée, il avait retiré la joie. Il n'était plus qu'effrayant. « Qu'est cet homme ?» Ce fut le cri. Un frémissement indescriptible courut sur tous les bancs. Ses cheveux en forêt, ses enfoncements noirs sur les sourcils, ce regard profond d'un œil qu'on ne voyait pas, le modelé farouche de cette tête, mêlant hideusement l'ombre et la lumière, ce fut surprenant. Cela dépassait tout. On avait eu beau parler de Gwynplaine. Le voir fut formidable. Ceux même qui s'y attendaient ne s'y attendaient pas. Qu'on s'imagine, sur la montagne réservée aux dieux, dans la fête d'une soirée sereine, toute la troupe des tout-puissants réunis, et la face de Prométhée, ravagée par les coups de bec du vautour, apparaissant tout à coup comme une lune sanglante à l'horizon. L'Olympe, apercevant le Caucase, quelle vision! Vieux et jeunes, béants, regardèrent Gwynplaine. Un vieillard, vénéré de toute la chambre, qui avait vu beaucoup d'hommes et beaucoup de choses, et qui était désigné pour être duc, Thomas, comte de Wharton, se leva effrayé. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » cria-t-il. « Qui a introduit cet homme dans la chambre ? Qu'on le mette cet homme dehors ?» Et apostrophant Gwynplaine avec hauteur, « Qui êtes-vous ? D'où sortez-vous ? » Gwynplaine répondit, « Du gouffre. » Et, croisant les bras, il regarda les lords. « Qui suis-je ? « Je suis la misère. Milord, j'ai à vous parler. » Il y eut un frisson et un silence. Gwynplaine continua. « Milord, vous êtes en haut. C'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez le pouvoir, l'opulence, la joie, le soleil immobile à votre zénith, l'autorité sans bornes, la jouissance sans partage, l'immense oubli des autres. Soit. Mais il y a au-dessous de vous quelque chose. Au-dessus, peut-être. Milord, je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe. Les assemblées sont comme les enfants. Les incidents sont leur boîte à surprises, et elles en ont la peur et le goût. Il semble parfois qu'un ressort joue, et l'on voit jaillir du trou un diable. Ainsi, en France, Mirabeau, difforme lui aussi. Gwynplaine, en ce moment, sentait en lui un grandissement étrange. Un groupe d'hommes à qui l'on parle, c'est un trépied. On est, pour ainsi dire, debout sur une cime d'âme. On a sous son talon un tressaillement d'entrailles humaines. Gwynplaine n'était plus l'homme qui, la nuit précédente, avait été un instant presque petit. Les fumées de cette élévation subite qui l'avait troublé s'étaient allégées et avaient pris de la transparence. Et là où Gwynplaine avait été séduit par une vanité, il voyait maintenant une fonction. Ce qu'il avait d'abord amoindri, à présent le rehaussait. Il était illuminé d'un de ces grands éclairs qui viennent du devoir. On cria de toutes parts autour de Gwynplaine. « Écoutez, écoutez !» Lui, cependant, crispé et surhumain, réussissait à maintenir sur son visage la contraction sévère et lugubre sous laquelle se cabrait le rictus, comme un cheval sauvage prêt à s'échapper. Il reprit. « Je suis celui qui vient des profondeurs. Milord, vous êtes les grands et les riches. C'est périlleux. Vous profitez de la nuit. Mais prenez garde. Il y a une grande puissance. » L'aurore. L'aube ne peut être vaincue. Elle arrivera. Elle arrive. Elle a en elle le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de jeter le soleil dans la mer? Le soleil, c'est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez peur. Le vrai maître de la maison va frapper à la porte. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir. Je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose du rien des autres. Milord, je suis l'avocat désespéré et je plaide la cause perdue. Cette cause, Dieu la regagnera. Moi, je ne suis rien qu'une voix. Le genre humain est une bouche et j'en suis le cri. Vous m'entendrez. Je viens ouvrir devant vous, père d'Angleterre, les grandes assises du peuple, ce souverain, qui est le patient, ce condamné, qui est le juge. Je plie sous ce que j'ai à dire. Par où commencer? Je ne sais. J'ai ramassé dans la vaste diffusion des souffrances mon énorme plaidoirie éparse. Qu'en faire maintenant? Elle m'accable et je la jette pêle-mêle devant moi. Avais-je prévu ceci? Non. Vous êtes étonné? Moi aussi. Hier j'étais un battleur. Aujourd'hui je suis un lord. Jeu profond. De qui? De l'inconnu. Tremblons tous. Milord, tout l'azur est de votre côté. De cet immense univers, vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre. Parmi vous, je m'appelle Lord Fermain Clancharlie. Mais mon vrai nom est un nom de pauvre, Gwynplaine. Je suis un misérable taillé dans l'étoffe des grands par un roi dont ce fut le bon plaisir. Voilà mon histoire. Plusieurs d'entre vous ont connu mon père. Je ne l'ai pas connu. C'est par son côté féodal qu'il vous touche, et moi je lui adhère par son côté proscrit. Ce que Dieu a fait est bien. J'ai été jeté au gouffre. Dans quel but? Pour que j'en visse le fond. Je suis un plongeur et je rapporte la perle, la vérité. Je parle parce que je sais. Vous m'entendrez, Milord. J'ai éprouvé. J'ai vu. La souffrance, non, ce n'est pas un mot, messieurs les heureux. La pauvreté, j'y ai grandi. L'hiver, j'y ai grelotté. La famine, j'en ai goûté. Le mépris, je l'ai subi. La peste, je l'ai eue. La honte, je l'ai bue. Et je la revomirai devant vous. Et ce vomissement de toutes les misères éclaboussera vos pieds et flamboiera. J'ai hésité avant de me laisser amener à cette place où je suis, car j'ai ailleurs d'autres devoirs, et ce n'est pas ici qu'est mon cœur. Ce qui s'est passé en moi ne vous regarde pas. Quand l'homme que vous nommez l'huissier de la verge noire est venu me chercher de la part de la femme que vous nommez la reine, j'ai eu un moment l'idée de refuser. Mais il m'a semblé que l'obscure main de Dieu me poussait de ce côté, et j'ai obéi. J'ai senti qu'il fallait que je vinsse parmi vous. Pourquoi ? À cause de mes haillons d'hier. C'est pour prendre la parole parmi les rassasiés que Dieu m'avait mêlé aux affamés. Oh, ayez pitié. Oh, ce fatal monde dont vous croyez être, vous ne le connaissez point. Si haut, vous êtes dehors. Je vous dirai, moi, ce que c'est. De l'expérience, j'en ai. J'arrive de dessous la pression. Je puis vous dire ce que vous pesez. Oh, vous, les maîtres, ce que vous êtes, le savez-vous? Ce que vous faites, le voyez-vous? Non. Ah, tout est terrible. Une nuit de tempête. Tout petit, abandonné, orphelin, seul dans la création démesurée, j'ai fait mon entrée dans cette obscurité que vous appelez la société. La première chose que j'ai vue, c'est la loi, sous la forme d'un gibet. La deuxième, c'est la richesse. C'est votre richesse, sous la forme d'une femme morte de froid et de faim. La troisième, c'est l'avenir, sous la forme d'un enfant agonisant. La quatrième, c'est le bon, le vrai et le juste, sous la figure d'un vagabond, n'ayant pour compagnon et pour ami qu'un loup. En ce moment, Gwynplaine, pris d'une émotion poignante, sentit lui monter à la gorge des sanglots, ce qui fit, chose sinistre, qu'il éclata de rire. La contagion fut immédiate. Il y avait sur l'assemblée un nuage. Il pouvait crever en épouvante. Il creva en joie. Le rire, cette démence épanouie, prit toute la chambre. Les cénacles d'hommes souverains ne demandent pas mieux que de bouffonner. Ils se vengent ainsi de leur sérieux. Un rire de roi ressemble à un rire de dieu. Cela a toujours une pointe cruelle. Les lords se mirent à jouer. Le ricanement aiguisa le rire, on battit des mains autour de celui qui parlait et on l'outragea. Un pêle-mêle d'interjections joyeuses l'assaillit, grêle, gaie et meurtrissante. « Bravo, Gwynplaine, bravo, l'homme qui rit, bravo, le museau de la Gwynbox, bravo, la hure de Tarrinzofield. Tu viens nous donner une représentation? C'est bon, bavarde! En voilà un qui m'amuse! Mais rit-il bien, cet animal-là? Bonjour, Pantin! Salut à Lord Clown! Harangue, va! C'est un père d'Angleterre, ça? Continue! Non, non! Si, si! » Le Lord Chancelier était assez mal à son aise. Un Lord sourd, James Butler, duc d'Ormont, faisant de sa main son oreille un cornet acoustique, demandait à Charles Beauclerc, duc de Saint-Alban, « Comment a-t-il voté ?» Saint-Alban répondait « Non content. »« Parbleu, disait Ormont, je le crois bien avec ce visage-là. » Une foule échappée, et les assemblées sont des foules. Ressaisissez-la donc. L'éloquence est un mort. Si le mort casse, l'auditoire s'emporte et rue jusqu'à ce qu'il ait désarçonné l'orateur. L'auditoire est l'orateur. On ne sait pas assez cela. Se raidir sur la bride semble une ressource et n'en est pas une. Tout orateur l'essaie, c'est l'instinct. Gwynplaine l'essaya. Il considéra un moment ces hommes qui riaient. Alors, cria-t-il, vous insultez la misère. Silence, père d'Angleterre. Juge, écoutez la plaidoirie. Oh, je vous en conjure, ayez pitié. Pitié pour qui ? Pitié pour vous. Qui est en danger ? C'est vous. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes dans une balance et qu'il y a dans un plateau votre puissance et dans l'autre votre responsabilité ? Dieu vous pèse. Oh, ne riez pas. Méditez. Cette oscillation de la balance de Dieu, c'est le tremblement de la conscience. Vous n'êtes pas méchants, vous êtes des hommes comme les autres, ni meilleurs ni pires. Vous vous croyez des dieux. Soyez malades demain, et regardez frissonner dans la fièvre votre divinité. Nous nous valons tous. Je m'adresse aux esprits honnêtes, il y en a ici. Je m'adresse aux intelligences élevées, il y en a. Je m'adresse aux âmes généreuses, il y en a. Vous êtes père, fils et frère, donc vous êtes souvent attendri. Celui de vous qui a regardé ce matin le réveil de son petit enfant est bon. Les cœurs sont les mêmes. L'humanité n'est pas autre chose qu'un cœur. Entre ceux qui oppriment et ceux qui sont opprimés, il n'y a de différence que l'endroit où ils sont situés. Vos pieds marchent sur des têtes, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la Babel sociale. Construction manquée tout en surplomb. Un étage accable l'autre. Écoutez-moi, je vais vous dire. Oh, puisque vous êtes puissant, soyez fraternel. Puisque vous êtes grand, soyez doux. Si vous saviez ce que j'ai vu, hélas, en bas, quel tourment! Le genre humain est au cachot. Que de damnés qui sont des innocents! Le jour manque, l'air manque, la vertu manque. On n'espère pas. Et ce qui est redoutable, on attend. Rendez-vous compte de ces détresses. Il y a des êtres qui vivent dans la mort. Il y a des petites filles qui commencent à 8 ans par la prostitution et qui finissent à 20 ans par la vieillesse. Quant aux sévérités pénales, elles sont épouvantables. Je parle un peu au hasard et je ne choisis pas. Je dis ce qui me vient à l'esprit. Pas plus tard qu'hier, moi qui suis ici, j'ai vu un homme enchaîné et nu, avec des pierres sur le ventre, expiré dans la torture. Savez-vous cela ? Non. Si vous saviez ce qui se passe, aucun de vous n'oserait être heureux. Qui est-ce qui est allé à Newcastle-on-Tyne ? Il y a dans les mines des hommes qui mâchent du charbon pour s'emplir l'estomac et tromper la faim. Tenez, dans le comté de Lancastre, Worcester, à force d'indigence, de ville est devenu village. Je ne trouve pas que le prince George de Danemark ait besoin de 100 000 guinées de plus. J'aimerais mieux recevoir l'hôpital indigent malade sans lui faire payer d'avance son enterrement. En Caernarvon, à Twesmore, comme à Twesbisham, l'épuisement des pauvres est horrible. À Stratford, on ne peut dessécher le marais faute d'argent. Les fabriques de draperies sont fermées dans tout le Lancashire. Chômage partout. Savez-vous que les pêcheurs de harengs de Harlech mangent de l'herbe quand la pêche manque ? Savez-vous qu'à Burton Laser, il y a encore des lépreux traqués et auxquels on tire des coups de fusil s'ils sortent de leur tanière ? À Elsbury, ville dont un de vous est lord, la disette est en permanence. À Penquidge, en Coventry, dont vous venez de doter la cathédrale et d'enrichir l'évêque, on n'a pas de lit dans les cabanes, et l'on creuse des trous dans la terre pour y coucher les petits-enfants, de sorte qu'au lieu de commencer par le berceau, ils commencent par la tombe. J'ai vu ces choses-là. Milord, les impôts que vous votez, savez-vous qui les paie ? Ceux qui expirent, hélas. Vous vous trompez, vous faites fausse route, vous augmentez la pauvreté du pauvre pour augmenter la richesse du riche. C'est le contraire qu'il faudrait faire. Quoi ? Prendre aux travailleurs pour donner à l'oisif ? prendre au déguenillé pour donner au repu, prendre à l'indigent pour donner au prince. Oh oui, j'ai du vieux sang républicain dans les veines. J'ai horreur de cela. Ces rois, je les exècre, et que les femmes sont effrontées. On m'a conté une triste histoire. Oh, je hais Charles II. Une femme que mon père avait aimée s'est donnée à ce roi pendant que mon père mourait en exil, la prostituée. Charles II, Jacques II, après un vaurien, un scélérat. Qu'y a-t-il dans le roi? Un homme, un faible et chétif sujet des besoins et des infirmités. À quoi bon le roi? Cette royauté parasite, vous la gavez. Ce ver de terre, vous le faites boa. Ce ténia, vous le faites dragon. Grâce pour les pauvres. Vous alourdissez l'impôt au profit du trône. Prenez garde aux lois que vous décrétez. Prenez garde aux fourmillements douloureux que vous écrasez. Baissez les yeux. Regardez à vos pieds. Ô grand, il y a des petits. Ayez pitié. Oui, pitié de vous. Car les multitudes agonisent, et le bas en mourant fait mourir le haut. La mort est une cessation qui n'accepte aucun membre. Quand la nuit vient, personne ne garde son coin du jour. Êtes-vous égoïste? Sauvez les autres. La perdition du navire n'est indifférente à aucun passager. Il n'y a pas naufrage de ceci sans qu'il y ait engloutissement de cela. Oh, sachez-le, l'abîme est pour tous. Le rire redoubla, irrésistible. Du reste, pour égayer une assemblée, il suffisait de ce que ses paroles avaient d'extravagant. Être comique au dehors et tragique au dedans, pas de souffrance plus humiliante, pas de colère plus profonde. Gwynplaine avait cela en lui. Et ses paroles voulaient agir dans un sens, son visage agissait dans l'autre. Situation affreuse. Sa voix eut tout à coup des éclats stridents. Ils sont joyeux, ces hommes, c'est bon. L'ironie fait face à l'agonie. Le ricanement outrage le râle. Ils sont tout puissants, c'est possible. Soit, on verra. Ah, je suis un des leurs. Je suis aussi un des vôtres, ô vous, les pauvres. Un roi m'a vendu. Un pauvre m'a recueilli. Qui m'a mutilé? Un prince. Qui m'a guéri et nourri? Un meurt de faim. Je suis Lord Clancharlie, mais je reste Gwynplaine. Je tiens aux grands et j'appartiens aux petits. Je suis parmi ceux qui jouissent et avec ceux qui souffrent. Ah, cette société est fausse. Un jour viendra la société vraie. Alors, il n'y aura plus de seigneurs, il n'y aura que des vivants libres, il n'y aura plus de maîtres, il y aura des pères. Ceci est l'avenir. Plus de prosternement, plus de bassesse, plus d'ignorance, plus d'hommes bêtes de somme, plus de courtisans, plus de valets, plus de rois. La lumière. En attendant, me voici. J'ai un droit, j'en use. Est-ce un droit? Non, si j'en use pour moi. Oui, si j'en use pour tous. Je parlerai au Lord en étant un. Oh, mes frères d'en bas, je leur dirai votre dénuement. Je me dresserai avec la poignée des haillons du peuple dans la main. Et je secourrai sur les maîtres la misère des esclaves. Et ils ne pourront plus, eux les favorisés et les arrogants, se débarrasser du souvenir des infortunés et se délivrer, eux les princes, de la cuisson des pauvres. Et tant pis si c'est de la vermine, et tant mieux si elle tombe sur des lions. Ici, Gwynplaine se tourna vers les sous-clercs agenouillés qui écrivaient sur le quatrième sac de laine. « Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont à genoux? Qu'est-ce que vous faites là? Levez-vous, vous êtes des hommes !» Cette brusque apostrophe à des subalternes, qu'un lord ne doit pas même apercevoir, mit le comble aux joies. On avait crié « bravo », on cria « hourra ». Du battement des mains, on passa au trépignement. On eût pu se croire à la Gwynbox. Seulement, à la Gwynbox, le rire fêtait Gwynplaine. Ici, il l'exterminait. Tuer, c'est l'effort du ridicule. Le rire des hommes fait quelquefois tout ce qu'il peut pour assassiner. Le rire était devenu une voie de fait. Les quolibets pleuvaient. C'est la bêtise des assemblées d'avoir de l'esprit. Leurs ricanements ingénieux et imbéciles écartent les faits au lieu de les étudier et condamnent les questions au lieu de les résoudre. Un incident est un point d'interrogation. En rire, c'est rire de l'énigme. Le sphinx qui ne rit pas est derrière. On entendait des clameurs contradictoires. « Assez ! Assez ! Encore ! Encore !» William Farmer, baron Leinster, jetait à Gwynplaine l'affront de Ruy Quinet à Shakespeare. « Histriomima !» Lord Vaughan, homme sentencieux, le 29e du banc des barons, s'écriait « Nous revoici au temps où les animaux péroraient. Au milieu des bouches humaines, une mâchoire bestiale a la parole. » « Écoutons l'âne de Balaam !» ajoutait Lord Yarmouth. Lord Yarmouth avait l'air sagace que donne un nez rond et une bouche de travers. « Le rebelle Linnaeus est châtié dans son tombeau. Le fils est la punition du père, » disait John Hogue, évêque de Lichfield et de Coventry, dont Gwynplaine avait effleuré la prébende. « Il ment !» affirmait Lord Cholmondeley. Le législateur légiste. Ce qu'il appelle la torture, c'est la peine forte et dure, très bonne peine. La torture n'existe pas en Angleterre. Thomas Wentforth, baron Webby, apostrophait le chancelier. Milord chancelier, levez la séance. Non, 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 qu'il continue. Il nous amuse. Hurrah! Hep, hep, hep! Ainsi criaient les jeunes lords. Leur gaieté était de la fureur. Quatre, surtout, étaient en pleine exaspération d'hilarité et de haine. C'étaient Lawrence Hyde, comte de Rochester, Thomas Tufton, comte de Tanay, et le vicomte de Hatton et le duc de Montagu. « À la niche, Gwynplaine !» disait Rochester. « Ah bas, ah bas, ah bas !» criait Tanay. Le vicomte Hatton tirait de sa poche un penny et le jetait à Gwynplaine. Et John Campbell, comte de Greenwich, Savage, comte Rivers, Thompson, baron Havershaw, Warrington, Escrig Rollingstone, Rockingham, Carteret, Longdale, Bannister Maynard, Hunstone, Caernarvon, Cavendish, Burlingdon, Robert Darcy, comte de Holderness, Other Windsor, comte de Plymouth, applaudissait. Tumulte de pandémonium ou de panthéon dans lequel se perdaient les paroles de Gwynplaine. On n'y distinguait que ce mot. Prenez garde. Ralph, duc de Montagu, récemment sorti d'Oxford et ayant encore sa première moustache, descendit du banc des ducs où il siégeait 19e et alla se poser les bras croisés en face de Gwynplaine. Il y a dans une lame l'endroit qui coupe le plus, et dans une voix l'accent qui insulte le mieux. Montagu prit cet accent-là, et, ricanant au nez de Gwynplaine, lui cria « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je prédis, » répondit Gwynplaine. Le rire fit explosion de nouveau, et sous ce rire, grondait la colère en basse continue. Un des pères mineurs, Lionel Grandsaig Sackville, comte de Dorset et de Middlesex, se leva debout sur son banc, ne riant pas, grave comme il sied à un futur législateur, et, sans dire un mot, regarda Gwynplaine avec son frais visage de 12 ans en haussant les épaules. Ce qui fit que l'évêque de Saint-Asaph se pencha à l'oreille de l'évêque de Saint-David, assis à côté de lui, et lui dit en montrant Gwynplaine « Voilà le fou !» et en montrant l'enfant « Voilà le sage !» Du chaos des ricanements se dégageaient des exclamations confuses. « Face de Gorgone ! Que signifie cette aventure ? Insulte à la chambre ! Quelle exception qu'un tel homme ! honte, honte. Qu'on lève la séance. Non, qu'il achève. Parle, bouffon. Lord Lewis de Duras, les mains sur les hanches, criait. Ah, que c'est bon de rire. Ma rate est heureuse. Je propose un vote d'action de grâce ainsi conçu. La Chambre des Lords remercie la Gwynbox. Gwynplaine, on s'en souvient, avait rêvé un autre accueil. Qui a gravi dans le sable une pente à pic, toute friable, au-dessus d'une profondeur vertigineuse? Qui a senti sous ses mains, sous ses ongles, sous ses coudes, sous ses genoux, sous ses pieds, fuir et se dérober le point d'appui? Qui, reculant au lieu d'avancer sur cet escarpement réfractaire, en proie à l'angoisse du glissement, s'enfonçant au lieu de gravir, descendant au lieu de monter, augmentant la certitude du naufrage par l'effort vers le sommet, et se perdant un peu plus à chaque mouvement pour se tirer de péril, a senti l'approche formidable de l'abîme, et a eu dans les eaux le froid sombre de la chute. Gueule ouverte au-dessous de vous, celui-là a éprouvé ce qu'éprouvait Gwynplaine. Il sentait son ascension crouler sous lui, et son auditoire était un précipice. Il y a toujours quelqu'un qui dit le mot où tout se résume. Lord Scarsdale traduisit en un cri l'impression de l'assemblée. « Qu'est-ce que ce monstre vient faire ici ?» Gwynplaine se dressa, éperdu et indigné, dans une sorte de convulsion suprême. Il les regarda tous, fixement. « Ce que je viens faire ici, je viens être terrible. Je suis un monstre, dites-vous. Non, je suis le peuple. Je suis une exception? Non, je suis tout le monde. L'exception, c'est vous. Vous êtes la chimère, et je suis la réalité. Je suis l'homme. Je suis l'effrayant homme qui rit. Qui rit de quoi? De vous. De lui. De tout. Qu'est-ce que son rire? Votre crime et son supplice. Ce crime, il vous le jette à la face. Ce supplice, il vous le crache au visage. Je ris, cela veut dire je pleure. Il s'arrêta. On se taisait. Les rires continuaient, mais bas. Il put croire à une certaine reprise d'attention. Il respira et poursuivit. Ce rire qui est sur mon front, c'est un roi qui l'y a mis. Ce rire exprime la désolation universelle. Ce rire veut dire haine, silence, contraint, rage, désespoir. Ce rire est un produit des tortures. Ce rire est un rire de force. Si Satan avait ce rire condamnerait Dieu. Mais l'Éternel ne ressemble point au périssable. Étant l'absolu, il est le juste. Et Dieu est ce que font les rois. Ah, vous me prenez pour une exception. Je suis un symbole. Oh, tout-puissants imbéciles que vous êtes, ouvrez les yeux. J'incarne tout. Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. Où s'était posé le doigt de Dieu, s'est appuyée la griffe du roi. Monstrueuse superposition. Évêques, pères et princes, le peuple, c'est le souffrant profond qui rit la surface. Milord, je vous le dis, le peuple, c'est moi. Aujourd'hui, vous l'opprimez, aujourd'hui, vous me huez. Mais l'avenir, c'est le dégel sombre. Ce qui était pierre devient flot. L'apparence solide se change en submersion. Un craquement et tout est dit. Il viendra une heure où une convulsion brisera votre oppression, où un rugissement répliquera à vos huées. Cette heure est déjà venue. Tu en étais, ô mon père. Cette heure de Dieu est venue et s'est appelée République. On l'a chassée, elle reviendra. En attendant, souvenez-vous que la série des rois armés de l'épée est interrompue par Cromwell, armé de la hache. Tremblez. Les incorruptibles solutions approchent. Les ongles coupés repoussent. Les langues arrachées s'envolent et deviennent des langues de feu éparses au vent des ténèbres et hurlent dans l'infini. Ceux qui ont faim montrent leurs dents oisives. Les paradis bâtis sur les enfers chancellent. On souffre, on souffre, on souffre. Et ce qui est en haut penche, et ce qui est en bas s'entr'ouvre. L'ombre demande à devenir lumière. Le damné discute l'élu. C'est le peuple qui vient, vous dis-je. C'est l'homme qui monte. C'est la fin qui commence. C'est la rouge aurore de la catastrophe. Et voilà ce qu'il y a dans ce rire dont vous riez. Londres est une fête perpétuelle, soit. L'Angleterre est d'un bout à l'autre une acclamation. Oui, mais écoutez, tout ce que vous voyez, c'est moi. Vous avez des fêtes, c'est mon rire. Vous avez des joies publiques, c'est mon rire. Vous avez des mariages, des sacres et des couronnements, c'est mon rire. Vous avez des naissances de princes, c'est mon rire. Vous avez au-dessus de vous le tonnerre, c'est mon rire. Le moyen de tenir à de telles choses. Le rire recommença, cette fois accablant. De toutes les laves que jette la bouche humaine, ce cratère, la plus corrosive, c'est la joie. Faire du mal joyeusement, aucune foule ne résiste à cette contagion. Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds. Et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblés, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout prêt, qui est le sarcasme. Pas de supplice comparable à celui du misérable risible. Ce supplice, Gwynplaine le subissait. L'allégresse sur lui était lapidation et mitraille. Il était hoché et mannequin, tête de turc, cible. On bondissait, on criait bis, on se roulait, on battait du pied, on s'empoignait au rabat. La majesté du lieu, la pourpre des robes, la pudeur des hermines, l'in-folio des perruques, n'y faisaient rien. Les lords riaient, les évoques riaient, les juges riaient. Le banc des vieillards se déridait, le banc des enfants se tordait. L'archevêque de Canterbury poussait du coude l'archevêque d'York, Henry Compton, évêque de Londres, frère du comte de Northampton, se tenait les côtes. Le lord chancelier baissait les yeux pour cacher son rire probable. Et à la barre, la statue du respect, l'huissier de la Verge Noire, riait. Gwynplaine, pâle, avait croisé les bras. Et, entouré de toutes ces figures, jeunes et vieilles, où rayonnait la grande jubilation homérique, dans ce tourbillon de battements de mains, de trépignements et de hurrahs, dans cette frénésie bouffonne dont il était le centre, dans ce splendide épanchement d'hilarité, au milieu de cette gaieté énorme, il avait en lui le sépulcre. C'était fini. Il ne pouvait plus maîtriser ni sa face qui le trahissait, ni son auditoire qui l'insultait. Jamais l'éternelle loi fatale, le grotesque cramponné au sublime, le rire répercutant le rugissement, la parodie en croupe du désespoir, le contresens entre ce qu'on semble et ce qu'on est, n'avait éclaté avec plus d'horreur. Jamais lueur plus sinistre n'avait éclairé la profonde nuit humaine. Gwynplaine assistait à l'effraction définitive de sa destinée par un éclat de rire. L'irrémédiable était là. On se relève tombé, on ne se relève pas pulvérisé. Cette moquerie inepte et souveraine le mettait en poussière. Rien de possible désormais. Tout est selon le milieu. Ce qui était triomphe à la Green Box était chute et catastrophe à la Chambre des Lords. L'applaudissement là-bas était ici imprécation. Il semblait quelque chose comme le revers de son masque. D'un côté de ce masque, il y avait la sympathie du peuple acceptant Gwynplaine. De l'autre, la haine des grands rejetant Lord Fermain Clancharlie. D'un côté, l'attraction. De l'autre, la répulsion. Toutes deux le ramenant vers l'ombre. Il se sentait comme frappé par derrière. Le sort a des coups de trahison. Tout s'expliquera plus tard. Mais, en attendant, la destinée est piège et l'homme tombe dans des choses trappes. Il avait cru monter, ce rire l'accueillait. Les apothéoses ont des aboutissements lugubres. Il y a un mot sombre, être dégrisé. Sagesse tragique qui naît de l'ivresse. Gwynplaine, enveloppé de cette tempête gaie et féroce, songeait. À volo, c'est le fou rire. Une assemblée en gaieté, c'est la boussole perdue. On ne savait plus où l'on allait ni ce qu'on faisait. Il fallut lever la séance. Le lord chancelier, attendu l'accident, ajourna la suite du vote au lendemain. La chambre se sépara, les lords firent la révérence à la chaise royale et s'en allèrent. On entendit les rires se prolonger et se perdre dans les couloirs. Les assemblées, outre leurs portes officielles, ont dans les tapisseries, dans les reliefs et dans les moulures, toutes sortes de portes dérobées par où elles se vident comme un vase par des fêlures. En peu de temps, la salle fut déserte. Cela se fait très vite et presque sans transition. Ces lieux de tumulte sont tout de suite repris par le silence. L'enfoncement dans la rêverie mène loin, et l'on finit, à force de songer, par être comme dans une autre planète. Gwynplaine, tout à coup, eut une sorte de réveil. Il était seul, la salle était vide. Il n'avait pas même vu que la séance avait été levée. Tous les pères avaient disparu, même ses deux parrains. Il n'y avait plus, çà et là, que quelques bas officiers de la chambre, attendant pour mettre les housses et éteindre les lampes, que sa seigneurie fût partie. Il mit machinalement son chapeau sur sa tête, sortit de son banc, et se dirigea vers la grande porte ouverte sur la galerie. Au moment où il franchit la coupure de la barre, un doux keeper le débarrassa de sa robe de père. Il s'en aperçut à peine. Un instant après, il était dans la galerie. Les hommes de service qui étaient là remarquèrent avec étonnement que ce lord était sorti sans saluer le trône. Chapitre 8. Serait bon frère s'il n'était bon fils. Il n'y avait plus personne dans la galerie. Gwynplaine traversa le rond-point, d'où l'on avait enlevé le fauteuil et les tables, et où il ne restait plus trace de son investiture. Des candélabres et des lustres, de distance en distance, indiquaient l'itinéraire de sortie. Grâce à ce cordon de lumière, il put aisément retrouver, dans l'enchaînement des salons et des galeries, la route qu'il avait suivie en arrivant avec le roi d'armes, et l'huissier de la Verge Noire. Il ne faisait aucune rencontre, si ce n'est, çà et là, quelques vieux lords tardigrades s'en allant pesamment et tournant le dos. Tout à coup, dans le silence de toutes ces grandes salles désertes, des éclats de paroles indistincts arrivèrent jusqu'à lui, sorte de tapage nocturne singulier en un tel lieu. Il se dirigea du côté où il entendait ce bruit, et brusquement, il se trouva dans un spacieux vestibule faiblement éclairé qui était une des issues de la chambre. On apercevait une large porte vitrée ouverte, un perron, des laquais et des flambeaux. On voyait dehors une place. Quelques carrosses attendaient au bas du perron. C'est de là que venait le bruit qu'il avait entendu. En dedans de la porte, sous le réverbère du vestibule, il y avait un groupe tumultueux et un orage de gestes et de voix. Gwynplaine, dans la pénombre, approcha. C'était une querelle. D'un côté, il y avait 10 ou 12 jeunes lords voulant sortir, de l'autre, un homme, le chapeau sur la tête, comme eux, droit et le front haut, et leur barrant le passage. Qui était cet homme ? Tom Jim Jake. Quelques-uns de ces lords étaient encore en robe de père. D'autres avaient quitté l'habit de parlement et étaient en habit de ville. Tom Jim Jake avait un chapeau à plumes, non blanches comme les pères, mais vertes et frisées d'orange. Il était brodé et galonné de la tête aux pieds, avec des flots de rubans et de dentelles aux manches et au cou. Et il maniait fiévreusement de son poing gauche la poignée d'une épée qu'il portait en civadière et dont le baudrier et le fourreau étaient passementés d'encre d'amiral. C'était lui qui parlait. Il apostrophait tous ces jeunes lords et Gwynplaine entendit ceci. « Je vous ai dit que vous étiez des lâches. Vous voulez que je retire mes paroles ? Soit. Vous n'êtes pas des lâches. Vous êtes des idiots. Vous vous êtes tous mis contre un. Ce n'est pas couardise. Bon. Alors, c'est ineptie. On vous a parlé. Vous n'avez pas compris. Ici, les vieux sont sourds de l'oreille et les jeunes de l'intelligence. Je suis assez un des vôtres pour vous dire vos vérités. Ce nouveau venu est étrange et il a débité un tas de folies, j'en conviens. Mais dans ces folies, il y avait des choses vraies. C'était confus, indigeste, mal dit, soit. Il a répété trop souvent, savez-vous, savez-vous. Mais un homme qui était hier grimacier de la foire n'est pas forcé de parler comme Aristote et comme le docteur Gilbert Burnet, évêque de Sarum. La vermine, les lions, l'apostrophe au sous-clair, tout cela était de mauvais goût. Parbleu, qui vous dit le contraire ? C'était une harangue insensée et décousue et qui allait tout de travers. Mais il en sortait, ça et là, des faits réels. C'est déjà beaucoup de parler comme cela quand on n'en fait pas son métier. Je voudrais vous y voir, vous. Ce qu'il a raconté des lépreux de Burton Leather est incontestable. D'ailleurs, il ne serait pas le premier qui aurait dit des sottises. Enfin, moi, Milord, je n'aime pas qu'on s'acharne plusieurs sur un seul. Telle est mon humeur. Et je demande à vos seigneuries la permission d'être offensé. Vous m'avez déplu. J'en suis fâché. Moi, je ne crois pas beaucoup en Dieu, mais ce qui me ferait croire, c'est quand il fait de bonnes actions, ce qui ne lui arrive pas tous les jours. Ainsi, je lui sais gré, ce bon Dieu, s'il existe, d'avoir tiré du fond de cette existence basse ce pair d'Angleterre, et d'avoir rendu son héritage à cet héritier. Et sans m'inquiéter si cela arrange ou non mes affaires, je trouve beau de voir subitement le cloporte se changer en aigle, et Gwynplaine en clan de Charlie. Milord, je vous défends d'être d'un autre avis que moi. Je regrette que Lewis de Duras ne soit pas là. Je l'insulterai avec plaisir. Milord, Fermin clan de Charlie a été le lord, et vous avez été les saltimbanques. Quant à son rire, ce n'est pas de sa faute. Vous avez ri de ce rire. On ne rit pas d'un malheur. Vous êtes des niais, et des niais cruels. Si vous croyez qu'on ne peut pas rire de vous aussi, vous vous trompez. Vous êtes laid et vous vous habillez mal. Milord Havershaw, j'ai vu l'autre jour ta maîtresse. Elle est hideuse. Duchesse, mais guenon. Messieurs les rieurs, je répète que je voudrais bien vous voir essayer de dire 4 mots de suite. Beaucoup d'hommes jasent. Très peu parlent. Vous vous imaginez savoir quelque chose parce que vous avez traîné vos grègues fainéantes à Oxford ou à Cambridge, et parce que, avant d'être pair d'Angleterre sur les bancs de Westminster Hall, vous avez été âne sur les bancs du collège de Gonville et de Caius. Moi, je suis ici, et je tiens à vous regarder en face. Vous venez d'être imprudent avec ce nouveau lord. Un monstre soit, mais livré aux bêtes. J'aimerais mieux être lui que vous. J'assistais à la séance à ma place, comme héritier possible de Perry. J'ai tout entendu. Je n'avais pas le droit de parler, mais j'ai le droit d'être un gentilhomme. Vos airs joyeux m'ont ennuyé. Quand je ne suis pas content, j'irai sur le Mont Penthill cueillir l'herbe des nuées, le Cloudesbury qui fait tomber la foudre sur qui l'arrache. C'est pourquoi je suis venu vous attendre à la sortie. Causer est utile, et nous avons des arrangements à prendre. Vous rendiez-vous compte que vous me manquiez un peu à moi-même? Milord, j'ai le ferme dessein de tuer quelques-uns d'entre vous. Vous tous qui êtes ici. Thomas Tufton, comte de Tunney, Savage, comte Rivers, Charles Spencer, comte de Sunderland, Lord Wanshide, comte de Rochester, vous, baron, Gred Rolexstone, Kerwyddstone, Esprit Crockingham, toi, petit Carteret, toi, Robert Darcy, comte Holderness, toi, William, vicomte Alton, et toi, Ralph, duc de Montagu, et tous les autres qui voudront, moi, David Derrymore, un des soldats de la flotte, je vous somme et je vous appelle. Et je vous commande de vous pourvoir en diligence de second et de parrain. Et je vous attends, face contre face et poitrine contre poitrine, ce soir, tout de suite, demain, le jour, la nuit, en plein soleil, au flambeau, ou quand et comme bon vous semblera. Partout où il y a assez de place pour deux longueurs d'épée. Et vous ferez bien de visiter les batteries de vos pistolets et le tranchant de vos estocs, attendu que j'ai l'intention de faire vos péris vacantes. Ogle Cavendish, prends tes précautions et songe à ta devise. Cavendo tutus. Marmaduke Longdal, tu feras bien comme ton ancêtre Gundol de te faire suivre d'un cercueil. George Roos, comte de Warrington, tu ne reverras pas le comté palatin de Chester et ton labyrinthe à la façon de Crète et les hautes tourelles de Dunham Massey. Quant à Lord Vaughan, il est assez jeune pour dire des impertinences et trop vieux pour en répondre. Je demanderai compte de ses paroles à son neveu, Richard Vaughan, membre des communes pour le bourg de Meriones. Toi, John Campbell, comte de Greenwich, je te tuerai comme hachon tu as ma tasse. Mais d'un coup franc et non par derrière, ayant coutume de montrer mon cœur et non mon dos à la pointe de l'espadon. Et c'est dit, milord. Sur ce, usez de maléfices si bon vous semble, consultez des tireuses de cartes, graissez-vous la peau avec les onguents et les drogues qui font invulnérable, pendez-vous au cou des sachets du diable ou de la vierge, je vous combattrai, bénis ou maudit, et je ne vous ferai point tâter pour savoir si vous avez sur vous des sorcelleries. À pied ou à cheval, en plein carrefour si vous voulez, à Piccadilly ou Charing Cross, et l'on dépavera la rue pour notre rencontre, comme on a dépavé la cour de Londres pour le duel de Guise et de Bassompierre. Tous, entendez-vous? Je vous veux tous. Dorme, comte de Caernarvon, je te ferai avaler ma lame jusqu'à la coquille, comme fit Marolles à Lys Marivaux. Et nous verrons ensuite, milord, si tu riras. Toi, Burlington, qui as l'air d'une fille avec tes 17 ans, tu auras le choix entre les pelouses de ta maison de Middlesex et ton beau jardin de Londonsburg en Yorkshire pour te faire enterrer. J'informe vos seigneuries qu'il ne me convient pas qu'on soit insolent devant moi, et je vous châtierai, milord. Je trouve mauvais que vous ayez bafoué Lord Fermain Clancharlie. Il vaut mieux que vous. Comme Clancharlie, il a la noblesse que vous avez, et comme Gwynplaine, il a l'esprit que vous n'avez pas. Je fais de sa cause ma cause, de son injure mon injure, et de vos ricanements ma colère. Nous verrons qui sortira de cette affaire vivant. Car je vous provoque à outrance, entendez-vous bien? Et à toute arme et de toute façon, et choisissez la mort qui vous plaira. Et puisque vous êtes des manants en même temps que des gentilshommes, je proportionne le défi à vos qualités, et je vous offre toutes les manières qu'ont les hommes de se tuer, depuis l'épée, comme les princes, jusqu'à la boxe, comme les goujats. À ce jet furieux de parole, tout le groupe hautain des jeunes lords répondit par un sourire. « Convenu, » dirent-ils. « Je choisis le pistolet, » dit Burlington. « Moi, » dit Esric, « l'ancien combat de Chanclot à la masse d'armes et au poignard. »« Moi, » dit Holderness, « le duel aux deux couteaux. » le long et le court, torse nu et corps à corps. « Lord David, dit le comte de Tanné, tu es écossais. Je prends la claymore. » « Moi, l'épée, dit Rockingham. » « Moi, dit le duc Ralph, je préfère la boxe, c'est plus noble. » Gwynplaine sortit de l'ombre. Il se dirigea vers celui qu'il avait jusque-là nommé Tom Jim Jake et en qui, maintenant, il commençait à entrevoir autre chose. « Je vous remercie, dit-il, mais ceci me regarde. » Toutes les têtes se tournèrent. Gwynplaine avança. Il se sentait poussé vers cet homme qu'il entendait appeler Lord David et qui était son défenseur, et plus encore peut-être. Lord David recula. « Tiens, dit Lord David, c'est vous ? Vous voilà, cela se trouve bien. J'avais aussi un mot à vous dire. Vous avez tout à l'heure parlé d'une femme qui, après avoir aimé Lord Linnaeus Claude Charlie, a aimé le roi Charles II. « C'est vrai ? Monsieur, vous avez insulté ma mère. »«
Votre mère ? » s'écria Gwynplaine.
« En ce cas, je le devinais, nous sommes... »«
Frères, »
répondit Lord David. Et il donna un soufflet à Gwynplaine. « Nous sommes frères, » reprit-il, « ce qui fait que nous pouvons nous battre. On ne se bat qu'entre égaux. Qui est plus notre égal que notre frère ? Je vous enverrai mes parrains. Demain, nous nous couperons la gorge. »